Bonsoir à tous. Il nous reste une dernière étape à parcourir dans cette longue histoire que nous avons commencée depuis le premier entretien avec la première émergence de l'islam en Arabie. Je vous ai dit hier que entre 1800 et 1940, nous avons des mouvements intellectuels, des mouvements culturels, des œuvres nombreuses dans tous les domaines, du théâtre, du cinéma, de la peinture, une créativité, dans un climat de relative liberté. Mais de liberté quand même. Je dis relative liberté parce que des tensions commencent à apparaître quand les mouvements favorables à la modernité prennent quelque visibilité dans la société et inquiètent les milieux sociologiques des catégories professionnelles et des catégories de la population, comme la paysannerie, comme les ouvriers, les artisans dans les villes, qui ne bénéficiaient pas et qui n'avaient pas accès à ce mouvement de découverte d'une modernité qui est tout de même quelque chose de nouveau par rapport aux cultures populaires au pluriel qui continuent de vivre dans le pays. Et quand je dis culture populaire, je dis une langue qui est une langue dialectale, qui n'est pas la langue écrite arabe. La langue écrite est la langue des savants, des intellectuels, et elle est restée tout le long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. La radio et la télévision ne sont pas encore là pour diffuser justement l'arabe nouveau, ce qu'on appelle l'arabe moderne ou l'arabe médian, c'est-à-dire médian, il se situe entre l'arabe savant écrit et l'arabe parlé quotidien. Là, nous sommes donc dans des cultures populaires, sociologiquement c'est très important, qui continuent, les paysans, les nomades, les ouvriers dans les villes, les petites gens, on dirait, disons le peuple le plus nombreux, encore une fois, restent à l'extérieur de ce mouvement de modernisation et de installation de la modernité ou introduction de la modernité dans les sociétés musulmanes. Donc sociologiquement, cela veut dire que sociologiquement, la culture moderne est représentée par des élites urbaines minoritaires. Ce sont seulement ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, comme je l'ai dit, recevoir une formation scientifique et pouvoir apprendre les langues européennes, ou bien ceux qui, dans les pays eux-mêmes, arabes par exemple, la première université égyptienne est lancée en 1908, et elle va se développer, créer là aussi un mouvement de diffusion de la culture nouvelle, mais ça n'est pas suffisant, tous les paysans égyptiens ne participent pas à cela. Cette fragilité sociologique de la modernité dans les sociétés musulmanes explique l'émergence et la réussite de mouvements religieux qui vont prendre en charge cette population qui reste marginalisée par rapport au mouvement de modernisation. Et par exemple, en 1925, Ali Abdelrazek a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'islam wa usul al-hukm. L'islam wa usul al-hukm. L'islam est les fondements du pouvoir politique. Autrement dit, l'histoire de l'État musulman. Et dans ce livre, il dit un certain nombre de choses qui ne sont pas habituelles dans l'histoire de l'État musulman, telles que on l'enseignait et on le représentait dans les enseignements à la Zitouna, université de Tunis ancienne, ou Qaraouyin à Fès, ou Al-Mustansiriya à Bagdad, ou évidemment Al-Azhar au Caire, et dans d'autres lieux comme cela. Et donc, Ali Abdelrazek essaye de montrer que le califat n'est pas une institution religieuse. C'est une institution profane. C'est un État qui est occupée et dirigée par des souverains, des califes, qui reçoivent certes une reconnaissance par un groupe de ulama, mais cela, dit-il, ne suffit pas à définir une légitimité islamique du pouvoir. Je n'ai pas le temps d'insister sur ça. Je signale simplement que Al-Azhar va condamner Ali Abdelrazer, refuser ce livre, ne pas le laisser circuler, de même qu'elle refusera un autre livre, celui de Taha Hussein, qui lui parle de la poésie avant l'islam. Il a fait sa thèse de doctorat sur la poésie anti-islamique. La poésie, c'est de la littérature. Mais comme c'est la poésie anti-islamique, Taha Hussein a posé le problème de la relation entre la langue du Coran et la langue des poètes contemporains du Coran. Ça, c'est un problème d'histoire linguistique, d'histoire de la langue. Et nous avons besoin de documents écrits en arabe qui sont contemporains du Coran pour pouvoir mieux comprendre le vocabulaire coranique de ce temps-là, pas le vocabulaire tel que nous l'interprétons après coup, lorsque la langue arabe devient une grande langue de culture, de civilisation, etc., avec tout ce qui s'est passé après le Coran. Voilà un point qui montre l'introduction de ce qu'on appelle la philologie, c'est une science moderne, pour étudier les textes anciens. Eh bien, Al-Azhar ne sait pas ce que c'est que la philologie, ne comprend pas l'importance de la philologie. Donc elle va rejeter la thèse de Taha Hussein, condamner Taha Hussein, et l'obliger à republier sa thèse dans une forme expurgée. Ceci veut dire que l'introduction de la pensée moderne dans les sociétés musulmanes soulève les mêmes réactions dans les pays musulmans que celles du catholicisme en Europe, lorsque, par exemple, Renan, un grand professeur au Collège de France d'histoire, a publié un livre sur la vie de Jésus. Et dans ce livre, il dit des choses qui appartiennent à l'histoire, telles que l'écrivent les historiens du XIXe siècle, critiques, et l'Église n'est pas contente avec cette manière de présenter Jésus. Et donc l'Église proteste, condamne le livre. Vous voyez donc que il y a là une tension qui perdure, même en Europe, entre la raison religieuse, entre les conceptions de la religion officielle orthodoxe, gérée par l'Église pour le catholicisme, et gérée par les oulamas, en contexte islamique. Et en 1928, un autre mouvement qui va avoir une longue et importante histoire émerge en Égypte, dans ce contexte de tension. C'est le mouvement des frères musulmans lancé par Hassan el-Benna. Ceci est important à noter du point de vue de l'histoire des tensions entre les courants religieux conservateurs et les courants modernes qui adoptent les méthodes et les outils de pensée modernes de la construction de la culture historienne et de la connaissance de l'histoire des sociétés, comme j'ai essayé de vous la présenter dans tous les entretiens que nous avons déjà eus. Merci pour votre attention et à demain. Bonsoir à tous, wa sahaf tolko. J'ai évoqué hier les tensions pendant la Nahda et après la Nahda entre les partisans de la raison moderne et les défenseurs de la raison religieuse, en islam comme en chrétienté. Il y a un mouvement dont je n'ai pas encore parlé et qu'il faut évoquer à ce stade de nos entretiens et de notre exposé continu sur le développement de la pensée islamique, d'expression arabe et autres langues islamiques. C'est le mouvement que l'on appelle Islah, Islahi, Islah Salafi, la réforme de la pensée et des articles de foi, une révision une mise à jour moderne des articles de foi que prescrit l'islam. Ce mouvement de réforme est très ancien. Il ne date pas du XIXe siècle et de la rencontre avec la modernité. Déjà, au premier siècle de l'Hégire, déjà, les musulmans commençaient à débattre sur ce qui s'est passé au temps du prophète, quand le prophète était vivant. Parce que chaque fois qu'on se référait au Coran pour prendre une décision juridique, pour savoir comment il faut faire la prière, pour savoir comment il faut jeûner, pour savoir comment traiter les habitants de ce qui va devenir le Maghreb arabe, c'est-à-dire devant des populations qui ne sont ni arabophones, ni musulmanes, mais qui sont des berbères, habitants du Maghreb. Et parmi les berbères, il y avait des convertis au christianisme, car le christianisme était présent pendant 6 siècles au Maghreb. Et donc, le traitement de ces populations posait des problèmes. Et chaque fois donc qu'on posait des problèmes nouveaux, et que les juristes, les théologiens devaient répondre à ces problèmes, on référait toujours aux versets du Coran, mais l'interprétation de ces versets du Coran devait être fondée sur des explications données par le prophète. Autrement dit, le regard vers l'arrière, le regard constant des musulmans vers l'arrière. Et cette arrière-là, c'est une période précise, chronologique précise, 610-632. Donc les sahaba, les compagnons du prophète, vont jouer toujours un rôle fondamental, parce que c'est par eux que la mémoire de tous les événements et de tous les enseignements du prophète sont transmis aux postérités. C'est ce regard-là vers l'arrière pour connaître exactement ce que le prophète a enseigné à propos des versets ou ce qu'il a enseigné directement à propos des circonstances nouvelles qu'il avait à gérer. Ce regard vers l'arrière, c'est cela que l'on nomme al-islah, c'est-à-dire retourner à la forme la plus authentique de l'islam, à l'expression et aux enseignements les plus vrais, vrais au sens de la vérité historique de la transmission et du Coran et des enseignements du Coran. C'est cela, l'islah. Et donc l'islah, c'est une nécessité inhérente à la pensée religieuse, aussi bien chrétienne que juive et musulmane. Parce que les chrétiens font la même chose. Il faut référer à ce qu'a dit Jésus et à la manière dont les contemporains ont compris et interprété Jésus. Et les juifs, jusqu'à nos jours, sont en train toujours de lire et relire le Talmud et ce que disent les écrits juifs et les commentaires interminables et toujours renouvelés de ce que dit le Talmud, ce que dit la Mishnah, c'est-à-dire les commentaires du Talmud, etc., etc. Vous voyez, ici, nous sommes devant une autre dimension de la culture religieuse, de la pratique religieuse et de la manière religieuse de connaître le passé et de traiter le passé. Dans ce passé lointain, maintenant, nous sommes plus de 15 siècles de ce moment inaugurateur de l'islam, de ce moment privilégié de l'islam, eh bien, les musulmans d'aujourd'hui continuent de porter le même regard pour contrôler la moindre des décisions prises, pour que ces décisions juridiques ou morales ou des conduites individuelles ou collectives ne soient pas en contradiction ou ne soient pas à l'écart de la vérité de l'enseignement tel qu'il a été donné dans le moment fondateur et inaugurateur de l'islam, où le moment fondateur et inaugurateur du christianisme et évidemment du judaïsme. Donc l'islah, ce que nous appelons l'islah, ce petit mot-là, il engage des problèmes tout à fait considérables. Alors, j'espère que vous avez compris cette attitude, et nous la trouvons aujourd'hui, chez les musulmans d'aujourd'hui. Tout le temps, on cite des hadiths, on cite des versets, et on cite des commentaires sur les hadiths et les versets. Nous vivons tout le temps dans ce qu'on appelle le temps de As-Salaf As-Salih, les pieux et les purs ancêtres qui ont connu la vérité de l'islam. Et il faut toujours revenir pour retrouver la première forme, qui est la forme pure, la forme authentique, la forme non fragmentée, dispersée, commentée par toutes sortes d'intervenants au cours de l'histoire. Alors, c'est Mohamed Abdou et Jamal Din Afrani, deux grands noms de la fin du XIXe siècle, qui ont eu à réagir face à cette modernité qui vient de l'Europe et qui, évidemment, pose des problèmes tout à fait considérables. Par exemple, est-ce qu'il est permis de faire de la peinture? Est-ce qu'il est permis de jouer de la musique? Est-ce qu'il est permis d'utiliser le téléphone? Etc., etc. Ce sont les fatwas, maintenant, qui sont donnés à la télévision. C'est exactement ça qui continue au XXIe siècle, sans que l'on pose les problèmes de l'histoire de la transmission de tous les commentaires successifs qui ont été donnés par des générations de fuqaha, par des générations de ulama, par des générations d'historiens qui ont écrit sur ces sujets-là. C'est pour cela que cela est un immense domaine qui n'est pas encore exploré par les historiens modernes, mais sur lequel un grand nombre d'historiens européens, américains, japonais, ceux qui travaillent dans la sphère que nous appelons occidentale, informés par la modernité, tous ceux-là ont écrit sur ces mêmes problèmes qui concernent les musulmans, mais les musulmans ne lisent pas ces livres. Ce sont les livres des koufars, ce sont les livres des ennemis de l'islam. Il faut que ce soit nous, musulmans, qui produisions ces livres-là. Et vous voyez qu'ici, nous touchons à des problèmes brûlants et qui nous causent énormément d'ennuis. Et encore une fois, il est dommage d'interrompre toujours brutalement de tels sujets. À demain. Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre cheminement vers la période actuelle. Nous avons parcouru à grandes enjambées, bien sûr, plusieurs siècles d'histoire de l'islam comme religion et de l'histoire des sociétés et de la culture dans les sociétés musulmanes en général. Et nous avons un peu plus insisté sur le monde arabe et les sociétés arabes, parce que nous ne pouvons pas malheureusement couvrir l'ensemble des sociétés complexes et surtout les sociétés qui sont éloignées de l'histoire et de la culture et de la compréhension de la religion dans le monde méditerranéen. Parce que initialement l'islam est né dans ce monde méditerranéen, comme je l'ai expliqué dans plusieurs interventions jusqu'ici. Nous sommes arrivés maintenant à une date extrêmement importante qui est 1945. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a ébranlé considérablement toute l'Europe, mais aussi l'Amérique, et évidemment, mais à un moindre degré, les empires coloniaux britanniques, hollandais et français surtout, dans la Méditerranée. Et la fin de la guerre va ouvrir la période des luttes menées par les mouvements nationaux de libération, des luttes pour sortir du système colonial. Et immédiatement après 1945, il y a plusieurs pays qui se libèrent, comme l'Indonésie en 1947, et comme le Pakistan, dont j'ai déjà parlé, qui se sépare de l'Inde, comme je l'ai expliqué, qui devient un État comprenant à la fois le Bangladesh, qui est très loin géographiquement du Pakistan, et qui, comme je vous l'ai expliqué, va connaître une scission en 1971. Mais il y a un autre événement que je ne peux pas évidemment oublier, c'est la création de l'État d'Israël en 1947. la naissance de cet État créé par les Nations Unies va ouvrir une ère de conflits, de guerres que nous vivons encore, nous n'en sommes pas sortis. Et malheureusement, ces guerres, on a beaucoup écrit, on a beaucoup expliqué, mais il reste encore beaucoup à expliquer sur ces guerres. Et il faut surtout retenir que ces guerres sont des guerres d'abord politiques, combats pour un territoire, le partage d'un territoire, mais des considérations religieuses se mêlent à ces combats politiques. Et c'est ce point de confluence entre le rôle des religions, l'islam et le judaïsme, comme référence, comme point d'appui de la revendication des territoires, qui reste encore insuffisamment expliqué, insuffisamment analysé, parce qu'elle est intimement mêlée aux combats politiques. Or, les combats politiques sont du côté de ce qu'on appelle l'idéologie de combat, tandis que les religions, elles ont deux faces, et nous le constatons tous les jours aujourd'hui, la face de la spiritualité, la face de la connaissance de Dieu, la face du rapport des hommes à Dieu tels qu'ils sont enseignés dans les livres où nous trouvons depuis la Bible un cheminement du rapport entre les hommes et Dieu qui se révèle progressivement à travers la voix des prophètes. Ça, c'est la dimension strictement religieuse. Et il y a la dimension politique qui n'est pas apparue, évidemment, seulement dans les temps modernes. Elle a toujours existé. Et il y a là un problème sur lequel je n'ai pas pu vous parler encore, parce que c'est un problème difficile à expliquer. Mais il faut en dire un mot parce qu'il est de grande actualité, parce qu'il touche à un point névralgique de la situation aujourd'hui de l'immigration musulmane en Europe, mais aussi il touche profondément toutes les sociétés musulmanes dans toute la Terre, sur tout le globe, parce que c'est un problème qui intéresse l'ensemble des sociétés humaines. Ce problème, c'est comment séparer le pouvoir spirituel que représentent les religions, pouvoir spirituel et aussi autorité morale, enseignement des valeurs morales, d'une part, et puis la vie politique des citoyens, d'autre part. Elles ont été mêlées dans toutes les religions et dans l'histoire de toutes les sociétés. C'est pour cela que le problème aujourd'hui se pose dans toutes les sociétés. Et un des points de la modernité dont nous avons parlé, c'est précisément la solution, ou plutôt la décision imposée historiquement dans les pays européens, à partir des révolutions anglaises, américaines et françaises, une décision politique qui consiste à créer un État souverain politiquement, indépendant de toute référence aux enseignements de la religion. On crée des institutions nouvelles et un droit nouveau qui consiste à créer des États politiquement souverains, c'est-à-dire fondés sur le suffrage universel du peuple qui s'exprime lors de chaque élection pour envoyer au Parlement des représentants qui vont assumer ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif confié au Parlement des députés élus et le pouvoir judiciaire qui appartient à la magistrature indépendante de l'exécutif de l'État, mais évidemment chargé d'appliquer la législation, les lois votées par le Parlement. Mais les magistrats restent indépendants dans l'exercice de leur métier propre, et cette division des pouvoirs est une conquête démocratique extrêmement importante, parce que jusqu'à nos jours, nous trouvons des régimes où cette séparation est loin d'être réalisée et elle est loin d'être respectée. Je reviendrai sur ce point parce que je voudrais bien que tout le monde comprenne l'enjeu considérable de ce qui se passe en Europe, parce qu'au lendemain des indépendances, nous allons voir surgir des États qui vont avoir la responsabilité, justement, d'introduire ces institutions démocratiques nouvelles, mais ces institutions démocratiques n'ont pas de référence dans l'histoire de l'État dans les pays musulmans et dans le droit musulman tel qu'il a été appliqué depuis la création du califat jusqu'à nos jours. Et ceci est très important parce que Atatürk, en 1924, a ressenti le besoin d'abolir complètement le régime ottoman, qui était un régime de sultanat et pas de califat. Ça aussi, c'est une distinction très importante à l'intérieur de l'islam, parce que le califat, théologiquement, c'est le vicaire, le successeur du prophète lui-même, qui a la charge de veiller à ce que la loi islamique soit appliquée dans toutes les sociétés musulmanes. Mais le calife lui-même n'a pas autorité d'intervenir dans la construction de la loi musulmane, de la charia, et de discuter de l'élaboration des ahkam, l'ahkam, comme les arabes, là où il s'entend, le où il s'entend, le calife, le passant, de faire l'ivoire seulement, de faire appliquer, de faire appliquer, par la magistrature, la charia qui ne dépend pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes et la souveraineté populaire qui intervient pour la construction de la loi et pour le pouvoir exécutif. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui, jusqu'à présent, brouille complètement les relations des pays musulmans avec l'Europe ou l'Occident d'une façon générale. Bonsoir à tous. Sahaftorkum. Pour cette causerie, je vais introduire un autre angle d'explication des problèmes de l'État, des problèmes des relations entre religion et politique en islam. C'est ce qu'on appelle la sociologie des religions. Comment se présente la sociologie de la religion musulmane dans les pays musulmans? La sociologie s'intéresse aux expressions, aux différentes expressions de la religion, selon qu'on habite dans les cités, c'est-à-dire on appartient à ce qu'on appelle la culture urbaine, ou on habite et on vit dans les campagnes avec les paysans, ou bien on vit et on habite dans des régions où la vie nomade, qui aujourd'hui a beaucoup diminué, bien sûr, parce que il y a des maisons fixes maintenant partout, on ne vit plus sous les tentes, mais les coutumes bédouines, les coutumes de la vie dans le désert subsistent encore et ne sont pas totalement remplacées par le droit nouveau qui régit les sociétés musulmanes. Alors, pour simplifier les choses, que se passe-t-il après 1945 au sujet des diverses expressions de l'islam? Eh bien, nous avons un islam géré par les oulamas. Il y a des associations de oulamas, comme en Algérie, comme au Maroc, partout, il y a des associations de oulamas. Ces oulamas représentent un islam savant, mais d'un savoir érudit des textes musulmans anciens, c'est-à-dire qu'ils lisent les ouvrages des anciens penseurs, juristes, musulmans, comme les ouvrages de l'école malikite, ou les ouvrages de l'école hanbalite, ou les ouvrages de l'école chiite, et c'est là qu'ils puisent leurs connaissances pour exercer soit le métier de magistrat, qadhi, soit le métier de mufti, c'est-à-dire de celui que l'on consulte, comme je l'ai expliqué, pour des cas difficiles. Mais j'insiste, ce qui distingue cet islam-là, c'est qu'il est urbain, qu'il utilise la langue arabe écrite, savante, et qu'il se base sur des textes anciens, savants. Deuxième type d'expression de l'islam, c'est l'islam populaire. Et cet islam populaire est géré depuis le XIIIe siècle, ça commence au XIIIe siècle, par ce que nous appelons les confréries, at-tariqa, at-turuq. Les confréries religieuses ont couvert la totalité de l'espace musulman. Depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc et depuis le Caucase jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est donc un phénomène d'une extrême importance. Je le mentionne ici parce que cet islam populaire géré par les cheikhs tariqa, le maître de la confrérie, qui a des disciples. Et le maître de la confrérie enseigne des rituels qui sont de plus en plus spécifiques à chaque confrérie. Les Tijaniya, les Mourides, les Naqshbandiya, il y en a beaucoup. Et chaque cheikh est lié à une région d'un pays. Et donc, dans la région du pays, il peut se trouver des populations qui ne parlent pas l'arabe. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas à peu près dans toute l'Afrique. Et c'est le cas en Asie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le cheikh, justement, se distingue du halm des villes par le fait que il s'installe dans la culture locale, avec la langue locale. Et donc, il communique les enseignements de la religion à travers les langues locales, et non pas à travers la langue savante. Le cheikh lui-même généralement connaît l'arabe, peut accéder au texte arabe. Mais son travail essentiel, c'est d'être le médiateur de ce qu'il apprend dans les textes comme les ulamas, pour les communiquer de façon simple, accessible à tous les fidèles de la confrérie, tous les membres de la confrérie, pour permettre à ces membres de la confrérie de participer à la vie religieuse selon les règles de l'islam. Mais encore une fois, il y a beaucoup de différences parce que il y a les coutumes locales et il y a surtout la sémantique des langues locales particulières aux groupes sociaux différents. Et vous voyez ici combien l'analyse sociologique de la religion nous permet de découvrir des aspects importants que nous ignorons ou que nous annulons parce que nous regardons l'islam aujourd'hui exclusivement à travers l'islam des ulamas, à travers l'islam savant des ulamas. Mais j'insiste quand je dis savant, que le savant alim d'aujourd'hui n'est pas comparable au docteur qui enseigne l'histoire dans une université ou qui enseigne la linguistique dans une université. C'est une autre formation, une formation différente. Donc il y a le mot savant, quand on l'emploie, c'est trompeur. Car si je dis savant pour les ulamas et je dis savant pour les chercheurs en sciences de l'homme et de la société qui se forment à la connaissance moderne des sociétés, je crée une confusion totale. Et puis, je m'interdis de comprendre justement le travail d'interprétation des textes religieux, comme je l'ai dit, que font les ulamas, sans avoir étudié ni l'anthropologie, ni la linguistique, ni l'histoire moderne, telle qu'elle s'écrit dans le monde savant actuel, et qui crée par conséquent des différences dans l'interprétation de la religion. Il y a donc un conflit entre l'islam populaire, qu'on appelle aussi l'islam des marabouts, voilà un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que il y a eu une tension entre les ulamas urbains et les marabouts dans des pays colonisés, en Algérie par exemple, il y a eu une forte tension entre ces deux expressions de l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 90, il y a un retour de l'islam populaire, de l'islam des zaouias, de l'islam des confréries, parce que les États se trouvent dans la nécessité de s'appuyer sociologiquement sur cet islam populaire qui est modéré, qui est pacifique, pour contenir l'islam de l'opposition politique au régime en place. Là, ici encore, nous rencontrons un aspect politique virulent qui utilise la religion, mais une religion qui n'est pas analysée comme je viens de le faire pour montrer les raisons des expressions différentes de la même religion qu'on appelle l'islam, mais qui n'est pas la même du tout sociologiquement, parce qu'il utilise des références différentes, des outils différents et surtout des mémoires de références différentes. Nous reviendrons encore sur ce point la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Bonsoir à tous, Sahaf Turkoum. Je vous ai dit dans la poserie précédente combien les confréries religieuses sont importantes dans le paysage politique, religieux et culturel des sociétés musulmanes contemporaines. Il faut que j'aille plus avant dans l'explication de cette importance. Au lendemain des indépendances, les élites nationales qui ont pris le pouvoir se trouvaient devant la difficulté de décider sur quel modèle ils peuvent s'appuyer pour lancer cet État qui a des responsabilités, comme tous les États, vis-à-vis des sociétés qu'il est appelé à gouverner. Faut-il prendre le modèle de l'Union soviétique? À ce moment-là, nous sommes dans les années 50-60, l'Union soviétique, le mouvement communiste, est encore fort et présent, justement dans les pays du tiers-monde. Ne l'oublions pas. Par exemple, Abd Nasser a fait alliance avec Tito et avec Nehru pour créer un mouvement de ce qu'on appelait les non-alignés dans les pays du tiers-monde. C'est-à-dire les pays du tiers-monde qui ne s'alignaient ni sur le modèle de ce qu'on appelait le monde libre, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe et l'Amérique, principalement, ni sur l'URSS, qui était un modèle collectiviste, communiste et surtout athée, où l'athéisme est enseigné de façon officielle comme une religion dans le monde communiste. Voilà encore une très grande difficulté devant laquelle se sont trouvés tous les États au lendemain de l'indépendance. Sukarno, par exemple, en Indonésie, a pris un virage pas totalement communiste, mais qui en est très proche. Et Nasser, il a contribué à créer le camp des non-alignés. Cependant, il est l'auteur de la charte de la République arabe unie qui a été publiée et mise en place en 1962. De même que l'Algérie a fait une charte, la charte d'Alger, en 1964, révisé dans la charte nationale en 1976. Et dans ces chartes nationales, on ne met pas encore l'accent sur justement la référence à l'islam et à l'héritage juridique musulman. C'est très remarquable. Et on insiste plutôt sur ce qu'on a appelé la révolution socialiste arabe, l'Ishtirakiya. Et ceci va durer pratiquement jusqu'à la mort de Nasser en 1970, mais déjà Nasser, après la grande défaite de 1967, a perdu beaucoup de son aura, de son charisme et de son pouvoir, et pratiquement c'est à partir de 1967 qu'il y a déjà un affaissement de cette option qui est une option politique majeure, soit pour un État collectiviste et socialiste, soit pour un État qui reste plutôt aligné sur ce qu'on appelait le monde libre, c'est-à-dire les démocraties européennes et américaines. Et c'est seulement après la mort de Nasser, l'arrivée au pouvoir de Sadat, qu'il va y avoir une inversion idéologique de l'orientation des États pour avoir leur légitimité. Car un État a toujours besoin d'une légitimité. Et qui va lui donner cette légitimité? Il y a deux sources pour la légitimité, c'est-à-dire pour que les citoyens acceptent l'autorité de l'État. Il y a, comme nous l'avons dit, dans le système démocratique, la souveraineté populaire, et dans le système des théologies politiques religieuses et de la loi religieuse, dans les religions monothéistes, c'est la loi divine qui donne la légitimité au pouvoir politique. Et donc, on voit que le problème n'est pas résolu, puisque au lieu de réfléchir à une solution qui ne serait ni totalement religieuse, ni totalement inscrite dans un modèle européen qui ne reprend pas du tout et qui n'a rien à voir avec les traditions, les coutumes, les cultures des pays musulmans, mais une recherche d'une forme adaptée à ces sociétés de l'État, au lieu de faire cette recherche, eh bien, on bascule dans l'autre pôle idéologique. Car ça n'est pas une option pour l'islam comme religion, comme je l'ai expliqué, mais une option pour un modèle politique qui est nécessairement un modèle qui est idéologique, c'est-à-dire qui repose sur des postulats, sur des principes qui ne sont pas partagés par l'ensemble de la population, puisque l'ensemble de la population est divisée, elle a des options différentes, et ces options différentes dans un régime démocratique devraient s'exprimer et être représentées au Parlement qui va en tenir compte dans la construction des lois au niveau du Parlement. Voilà encore des difficultés majeures qui vont s'amplifier à partir des années 1970. Anwar Sadat meurt assassiné après la tentative qu'il a initiée, les accords de Camp David qui ont permis à l'Égypte de récupérer le Sinaï. Et il y avait une opposition très forte qui a grandi sous Sadat et qui va grandir encore davantage lorsque Khomeini va prendre le pouvoir en Iran en 1979 et il va prendre le pouvoir pour le légitimer en faisant référence à l'islam chiite, à l'islam imamite. Et je vais en dire plus dans la prochaine causerie sur les différences théologiques cette fois-ci, donc les différences de définition de la légitimité s'agissant du régime du califat ou du régime de l'imamat chez les chiites. Ça aussi, c'est une question malheureusement brûlante, puisque nous voyons, malheureusement, on ne dira jamais assez, les chiites et les sunnites en particulier, mais il y a d'autres groupes malheureusement qui pâtissent de la situation tragique en Irak, mais le sunnisme et le chiisme ont une histoire sur laquelle je dois absolument revenir dans la prochaine causerie. Merci pour votre fidélité et à demain. Bonsoir à tous, Sahaf Tolkoum. Je vous ai promis de consacrer cette causerie au problème d'une actualité brûlante, mais qui a toujours été d'actualité depuis 661 dans tous les pays musulmans. Mais là encore, les musulmans qui n'ont pas appris l'histoire de l'islam, qui ne connaissent pas, malheureusement, parce qu'elle est mal enseignée dans les écoles et dans les universités, qui ne connaissent pas la véritable histoire doctrinale de l'islam. L'histoire doctrinale, c'est celle qui nous renseigne sur les enjeux de la bataille de Siffin et de ce qu'on appelle Al-Fitnatul Kubra, sur laquelle les musulmans ont beaucoup écrit et sur laquelle les orientalistes, les historiens européens et occidentaux de l'islam ont également écrit. C'est un moment crucial dans le lancement dans l'histoire des modèles politiques qui vont prédominer dans les sociétés musulmanes. Vous le savez, mais je le répète, de quoi s'agit-il? Quand le prophète meurt, la succession n'est pas réglée. On ne trouve pas dans le Coran une désignation explicite du successeur de Mohammed. Mais ça, c'est la version sunnite qui dit cela. La version chiite de l'islam dit au contraire qu'il est fait mention dans le Coran lui-même de la préférence du prophète pour son gendre et cousin Ali ibn Abi Talib. Voilà donc dès le départ deux thèses absolument opposées. Et ces thèses opposées reposent d'abord sur le Coran qui était disponible en ce temps-là. Nous sommes entre 632 et 661, c'est-à-dire les 30 premières années de l'islam, de l'histoire de l'islam. ces 30 premières années ont été vécues à Médine. C'est le califat de Médine. Et dès le départ, il y a une aile qui va se émerger et qui va pousser l'idée que Ali doit immédiatement succéder au prophète après sa mort. Or, l'histoire nous dit que ce n'est pas Ali qui a été choisi. C'est Abu Bakr, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, et enfin seulement au quatrième rang, Ali ibn Abi Talib. Donc il y avait des tensions dès le début parmi les premiers musulmans. Je n'ai pas le temps d'expliquer que ces tensions ne sont pas seulement autour du Coran, autour de la parole coranique. Elles sont aussi sociologiques, comme je l'ai expliqué dans une précédente causerie. C'est aussi, et je vais prononcer le mot, mais je vais vous l'expliquer, des bases anthropologiques. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie ? C'est une science qui étudie les structures profondes des sociétés qui commandent la vie politique, la vie culturelle, la vie idéologique des sociétés. Par exemple, le système de la parenté, les liens de parenté. Comment se forme la solidarité d'une famille patriarcale dans une société tribale? Et comment se forme le groupe plus large après le groupe, l'unité de la famille patriarcale? Il y a le groupe du clan. Par exemple, dans la tribu de Quraysh, nous avons le clan des Banu Hashim et le clan des Banu Sofian. Ça, c'est l'étude, c'est la science de l'anthropologie qui entre dans les soubassements de la société, c'est-à-dire comment se tissent les alliances. Pourquoi le prophète a eu plusieurs femmes? C'est parce que c'est lié à des alliances avec d'autres clans. Et quand on épouse une femme d'un clan, on crée nécessairement un lien de parenté avec ce clan, donc on élargit la base sociale du pouvoir dans la société. Et ces mécanismes anthropologiques et sociologiques de la conquête du pouvoir dans une société tribale, évidemment, ne disparaissent pas avec le Coran, qui n'est pas encore dans les têtes, que les gens n'ont pas encore appris, et qui n'a pas encore mis en application dans des institutions. Le droit musulman, il va venir bien plus tard, 2 siècles après, 3 siècles après. Tout cela est ignoré quand nous parlons de l'islam en général. Et quand nous parlons de l'islam sunnite, en l'opposant sans explications à l'islam chiite. Et en ce temps-là, il y a un troisième mouvement qu'on a complètement oublié, mais qui est très puissant dans les premières années de l'islam. C'est le mouvement que l'on appelle les kharijites. Le mot kharijite, c'est un terme polémique, négatif, que l'islam sunnite a donné à ce mouvement, mais il faut faire une distinction en arabe entre Kharaja min al-islam, kharaja min al-dar, il a quitté la maison, il a quitté l'islam, il est sorti. Wa kharaja ala al-adou, il est allé au combat pour défendre une cause. Donc le mot kharajit, si on ne précise pas ces deux sens-là du mot kharaja, ça va créer une ambiguïté, et cette ambiguïté, c'est elle qui a prévalu dans l'esprit de l'islam sunnite vis-à-vis des kharijites. Kharajou min l'islam. Alors que kharajou al-adou. Vous voyez combien l'histoire est extrêmement importante. Ça tient à un harf, une préposition. Préposition. Et donc, la situation est très compliquée pour définir tout ceci, pour définir la légitimité de l'État islamique. Le combat va continuer et il ne va jamais s'apaiser. Et ce que nous voyons à Bagdad, c'est une exaspération avec évidemment des facteurs de complication, des malentendus et des hostilités qui remontent à des siècles de polémiques et de combats théologiques. Et c'est ici, justement, qu'il faut expliquer l'enjeu de ce combat qui dure jusqu'à maintenant. Mais cela, nous le verrons dans la prochaine causerie. À demain. Bonsoir à tous. Sahaf Tolkum. Nous en sommes à l'explication des différences qui séparent la notion de légitimité en islam sunnite, en islam chiite et en islam kharijite. Les sunnites ont accepté l'ordre de succession des khulafa rachidin, comme on les appelle, c'est-à-dire des califes bien guidés, qui ont suivi Rushd, la voie droite et raisonnable qu'a tracé le Coran et les enseignements du prophète. Cette appellation, Al-Khulafa Rashidun, a été donnée aux quatre premiers califes par les historiens, car ce sont les historiens qui ont recueilli tous les événements qui se sont passés à Médine et qui ont fait des sélections dans ces événements. Par exemple, ils ne pouvaient pas le faire en leur temps. Faire référence, par exemple, comme je l'ai fait, aux mécanismes tribaux de conquête et d'exercice du pouvoir dans une société tribale et patriarcale. Bien sûr, les anciens faisaient attention au nasab, à la généalogie de chaque membre de la famille patriarcale et de chaque membre du clan. Ça, il le savait. Donc, il pratiquait la science de la généalogie et par cette science naissaient les solidarités sociales et politiques qui étaient contrôlées. Voilà pourquoi, après les Khulafa Rashidun, Muawiya a pris le pouvoir dans des conditions qui ont été sévèrement jugés par certains historiens, et surtout parce que Muawiya appartient au clan des Banu Sufyan. Abu Sufyan était l'opposant direct du prophète pendant sa vie. Et donc c'est un événement politique là aussi qui crée une rupture par rapport aux Khulafa Rashidun, qui étaient tous les quatre, quand même, des compagnons du prophète. Là, nous avons la prise de pouvoir par le clan ennemi des Banu Hashim. Donc, vous voyez que la question de la légitimité se complique. Et donc, c'est la dynastie Omeyyade qui va régner jusqu'en 750, de 661 jusqu'à 750, c'est-à-dire près d'un siècle. Et là, dans cette période-là, se constitue déjà une première version de la légitimité politique, avec une dynastie qui est formée du clan opposé au clan des Banu Hashim. Muawiya a pris en charge, évidemment, la référence au Coran et la référence en islam. Il ne l'a pas nié, il ne l'a pas rejeté. Mais il a développé une pratique politique qui va devenir progressivement légitime, bien qu'elle fût contestée par les deux mouvements kharijites et chiites, qui n'ont pas accepté ce nouveau coup de force de leur point de vue. Et les divisions vont continuer lorsque les Abbasides, la dynastie des Abbasides, va prendre le pouvoir cette fois-ci. Abbasides, c'est la lignée des Banu Hashim qui vient au pouvoir et qui élimine la lignée des Banu Sufyan. Donc on retourne quand même à une certaine ligne plus conforme à l'idée de légitimité par le nasab, la relation de parenté avec la famille du prophète. Mais pour les chiites, cela ne suffit pas, parce qu'il y a toujours la relation à Ali, la référence à Ali ibn Abi Talib et ses deux enfants Hussein et Hassan, qui auraient dû être les successeurs légitimes parce que ils descendent par le sang du prophète lui-même. Donc il y a une incarnation de la légitimité dans la famille Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed. Et c'est cette incarnation dans le sang des descendants du prophète qui va constituer la légitimité de l'imamat et la supériorité de cette légitimité sur celle du calife, qui est certes un membre du clan Banu Hashim, mais plus lointain que Hassan et Hussein, qui sont les descendants par Fatima et par Ali de la famille du prophète. Voilà le nœud de la légitimité islamique. C'est un nœud qui n'a jamais été dénoué. Car les chiites ont continué à vivre dans l'opposition au califat en place, aussi bien omeyyade que abbasside. Avec le califat abbasside, le chiisme va progressivement adopter la culture musulmane générale et participer par conséquent plus ou moins, non pas au gouvernement par le calife, ça, ils ne vont pas accepter cette légitimité-là, mais ils collaborent sur le plan de la culture, qui va devenir ce qu'on appelle l'adab, c'est-à-dire la culture commune de tous les, non seulement des musulmans qui vivent dans les villes musulmanes au temps des Abbasides, du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, mais aussi des juifs, des chrétiens, des kurdes, etc., toutes les populations d'origine très différente, cosmopolites, qui vivent à Bagdad, qui vivent à Shiraz, qui vivent au Caire, etc. Donc là, il se constitue un islam commun avec des références culturelles communes, mais sur le plan doctrinal, sur le plan du fiqh, c'est-à-dire du droit, et sur le plan de la légitimité politique, le mouvement chiite et le mouvement kharijite vont continuer à défendre leur position au sujet de la légitimité. À tel point que les chiites ont leur hadith à eux. Ils ont les corpus de hadith, les recueils de hadith, comme ceux de Kulayni, de Tosi, de Ibn Bawiyyah, etc., qui recueillent la mémoire chiite de la lignée prophétique, en suivant la lignée prophétique à travers les imams et les descendants des imams. Et il y a, au 9e siècle, une scission, après Ja'far Sadiq, une scission qui va donner la branche imamienne des 12 imams, l'Isna Ashariya, et la branche d'Ismaïl, Ismaïliya, les Ismaïliens, qui sont encore vivants jusqu'à nos jours, avec l'Aga Khan, qui est leur imam, et qui fonctionne selon la grande lignée des imams, mais par la voie qui s'arrête à Ja'far Sadiq et qui bifurque entre les imams du chiisme imamien et les imams du chiisme ismaïlien. Il faut retenir que les chiites ont une mémoire de la lignée et de la légitimité du prophète inscrite dans les corpus de hadith. Ces corpus de hadith ne sont jamais lus par les sunnites. Ils les considèrent tous comme apocryphes. Inversement, les chiites du haut des Simains, c'est-à-dire des Ithna Ashariya, ne lisent jamais les recueils de hadith sunnites, Bukhari, Muslim, etc., et ne les enseignent jamais. Donc là, il y a une scission encore plus profonde entre les deux islams, puisque c'est une scission sur la construction des mémoires collectives de l'islam sunnite et de l'islam chiite. Et ceci dure jusqu'à nos jours, parce que ni les historiens, ni les exégètes, ni les juristes ne se sont occupés de la question d'étudier les deux voies de cheminement de la tradition prophétique, pour savoir ce qui se passe, pour connaître les contenus de part et d'autre, et pour essayer de reconstituer la mémoire globale de l'islam, de tout l'islam réuni, et jusqu'à présent, ce travail n'est pas fait. Il faudra le faire un jour, mais malheureusement, toutes sortes de conditions historiques ont empêché jusqu'à présent ce travail de s'effectuer. À demain. Deux rencontres, ça va vite, et malheureusement, il y a encore énormément de chapitres, de problèmes à étudier, à expliquer, pour former la conscience historique, critique des musulmans contemporains, et pour leur permettre de sortir des répétitions dogmatiques d'une tradition qui a été mutilée au cours du temps. Car c'est une mutilation de la tradition que de ne jamais regarder la bibliothèque si riche des diverses fractions de l'islam que l'on appelle des sectes, et chacun va ignorer l'autre au cours des siècles. Parce que sociologiquement et culturellement, toutes les mémoires qui se sont formées dans l'espace de la culture et de la pensée musulmane nous apportent des renseignements historiques que l'historien est avide de lire et de faire valoir pour comprendre exactement tout ce qui s'est passé, en particulier pour la construction de la croyance islamique, de ce en quoi les musulmans croient. Et cette connaissance de la croyance islamique, par-delà les divisions, les excommunications, les rejets, les ruptures qui sont intervenues entre les différentes fractions de l'islam depuis ses débuts, tout cela est intéressant pour nourrir une connaissance objective de l'histoire et non pas une connaissance partisane de l'histoire qui ferme les portes et se replie sur une ligne de l'évolution historique, ignorant toutes les autres. Je voudrais insister, ou plutôt revenir à ma promesse, d'évoquer la tragédie de l'Irak et la tragédie de Bagdad. Parce que Bagdad a joué un rôle encore plus important que toutes les autres cités musulmanes du Moyen-Âge. Car c'est à Bagdad, entre 750 et 1258, ça fait plus de 5 siècles, de travail de plusieurs générations qui ont construit ce que nous appelons la culture musulmane et la pensée islamique. Et ceci s'est déroulé dans la grande capitale où siégeait le pouvoir abbasside, avec d'autres pouvoirs, d'autres dynasties qui ont amenuisé le pouvoir du calife. Par exemple, la dynastie des Banu Bouyé, les Bouyés, Banu Bouyé, c'est une dynastie qui, une population qui vient de la mer Caspienne et qui a pris le pouvoir en 935 à Bagdad et l'a gardé jusqu'en 1055, c'est-à-dire pendant à peu près un siècle. Et le siècle des Bouyides est un siècle tout à fait exceptionnel parce que c'est le siècle de la maturité de la pensée islamique classique. Qu'est-ce que ça veut dire, la maturité de la pensée islamique classique? C'est une période dans laquelle j'ai personnellement vécu pendant 10 ans, quand je préparais ma thèse de doctorat sur l'humanisme arabe au Xe siècle. Alors ici, vous voyez que je parle d'humanisme. L'humanisme est un concept extrêmement important dans l'histoire de la pensée philosophique et dans l'histoire des cultures aussi bien en Europe que dans l'espace musulman, l'espace de la culture musulmane. C'est un moment extrêmement important par conséquent à faire valoir, non seulement pour enrichir aujourd'hui la conscience historique des musulmans et la conscience critique des musulmans, mais aussi pour faciliter ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue des cultures, on en parle partout, pour essayer de diminuer la violence qui déchire à la fois l'Occident et le monde musulman, en particulier depuis la première guerre du Golfe, mais aussi il faut revenir à la guerre israélo-arabe qui ne cesse d'envenimer les relations entre l'ensemble du monde musulman et l'ensemble de ce qu'on appelle l'Occident. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Pourquoi insister sur l'humanisme? Humanisme, ça vient de homo. En latin, ça veut dire l'homme. L'humanisme, c'est l'attention continue, l'attention empressée et scrupuleuse et positive que l'homme porte à l'homme. Un des grands penseurs du Xe siècle s'appelle Abou Hayyan Tawhidi. Et je rapporte une définition de l'humanisme par Abou Hayyan Tawhidi. Il a dit, au Xe siècle, je le répète, c'est-à-dire en un temps où en Europe, on ne parlait pas encore d'humanisme. On n'avait pas les bases culturelles et intellectuelles pour pouvoir accéder à l'attitude humaniste de l'esprit, pour prendre conscience que chaque homme dépend de ce que l'homme fait de lui. Les hommes dépendent de ce que les hommes font des hommes, de ce que la décision des hommes font de la condition humaine. C'est-à-dire, on concentre le regard, l'intelligence, la curiosité sur la connaissance de la condition humaine. Et quand je dis la condition humaine, ce sont toutes les contraintes, à la fois biologiques, physiques, climatiques, culturelles, linguistiques, politiques, économiques, qui font que l'homme est à la fois dans des difficultés permanentes, dans une violence permanente, mais aussi, grâce à ces difficultés et à ces violences, l'homme résiste. Et il résiste par son intelligence. En prenant l'homme en charge, en prenant en charge les difficultés de l'homme, vous allez me dire, et Dieu alors, où est-il? C'est Dieu qui prend en charge les difficultés de l'homme. C'est Dieu qui se soucie de l'homme. Et l'homme doit se soucier de Dieu. Voilà la question. Et cette question est l'objet de recherches scientifiques, de recherches philosophiques permanentes de la part des hommes en société. Et ce travail-là, cette curiosité-là, a été développée par des penseurs juifs, chrétiens, musulmans, qui ont vécu ensemble à Bagdad et dans d'autres cités, mais surtout à Bagdad, parce que c'est à Bagdad que le calife Mahmoud a créé, durant son règne de 824-25, début du 9e siècle, il a créé cette fameuse maison de la sagesse, cette fameuse maison d'études, Dar al-Hikmah, où toutes les sciences étaient étudiées librement, ce qui est une définition de l'humanisme, car la raison humaine, l'esprit humain, doit avoir toutes les libertés pour réfléchir, pour débattre en public avec d'autres esprits qui chacun apporte un enrichissement aux connaissances et au travail de l'autre. Vous voyez que ça, c'est un moment d'une extrême importance qui échappe malheureusement à la culture des musulmans contemporains. C'est pourquoi je consacrerai encore la prochaine causerie à ce sujet-là. À demain.